J'aime trop les pads.
Oui, j'ai remarqué.
Ça a marché bien à Ascension, je trouvais quand même.
Ah ouais, je pense qu'il veut qu'on fasse attention de ne pas trop en faire. Hein.
Ouais.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup le silence. Je trouve qu'il y a un
Ouais,
côté
ouais.
où c'est bien de temps en temps, c'est bien même peut-être 50-60% du temps, mais il y a des moments où c'est juste bien de. Il faut pas qu'on remplisse tous les moments avec du bruit, quoi.
Ouais,
Il y a des
ok.
moments où le silence, c'est bien.
Ouais, bah, il était puissant le moment de silence qu'on avait
Ouais.
à l'ascension.
Bienvenue au podcast Refaire le monde en 20 minutes avec Nicky et Nathan. Je m'appelle Nicky.
Je m'appelle Nathan.
Dans ce podcast, toutes les semaines, nous nous réunissons pour parler de tout et de n'importe quoi, de n'importe quel sujet que nous avons à cœur ou que nous voulons partager avec vous. Cette semaine, Nathan, tu nous as proposé un sujet. Peut-être que tu veux le présenter, ce sujet.
Ouais, il y a un truc qu'on a en commun, c'est qu'on s'est tous les deux mariés jeunes, surtout par rapport à la norme du pays dans lequel on vit, la France. L'âge auquel les gens se marient est de plus en plus en plus en plus en plus tardif. De décision, hein. Je connais des gens qui sont pas encore mariés dans la trentaine, et ça, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui n'est pas choisi. Des gens voudraient se marier plus tôt, mais ne trouvent pas la bonne personne, etc., etc. Mais pour beaucoup de gens, c'est une décision de pas se marier aussi jeune. Et moi, je me suis marié à l'âge de 20 ans, et toi?
21,
Ouais.
la semaine après mon 21e anniversaire.
Ok, bah tu vois, moi, c'était le mois avant mon 21e, donc
Ouais.
à 5 semaines près, on s'est marié au même âge, et puis Rebecca avait 21 ans aussi, et Gemma avait...
22.
Ouais, ok. Ah, c'est la plus vieille de nous tous à la date à laquelle on se marie. Et 22 ans, quoi. Et de se dire qu'elle, c'était la plus âgée de nous quatre à la date de notre mariage. Et on était vus comme des énergumènes, des hurluberlus, des phénomènes venus d'une autre planète quand on s'est mariés. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de parler de notre expérience à nous,
Ouais.
de comment on l'a vécu, peut-être raconter deux, trois anecdotes marrantes aussi qui nous sont arrivées. Donc, toi, quand tu t'es marié avec Gemma, quand vous avez décidé de vous fiancer, de mettre une date pour votre mariage, t'as dû en parler à tes amis, tu étais encore à la fac à
Ouais.
l'époque. C'était quoi la réaction des gens?
Plutôt, alors la plupart de mes amis proches, ils étaient pas surpris, c'est quelque chose, voilà, un fiançailles se prépare. C'est quelque chose qu'ils savaient que j'étais très sérieux avec ma copine et que du coup ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, c'est pas non plus quelque chose qui est venu de nulle part. Quoique au moment de notre fiançailles, ça faisait 3 ans et demi qu'on était ensemble, du coup c'est pas totalement, mais quand même. Mais je me rappelle juste, donc en fait, Gemma elle était en Allemagne quand on s'est fiancés, du coup je suis allé la voir un week-end et c'est ce week-end-là j'ai décidé de lui demander en mariage. Et je suis revenu après qu'elle ait dit oui, c'était un succès. Je suis revenu le lundi à la fac et je me rappelle juste discuter avec un mec qui était. Qui était. Voilà, c'était pas un ami proche, mais quelqu'un que je connaissais à peu près. Et je lui dis, ah, au fait, je me suis fiancé ce week-end. Et je me rappelle juste du mec qui regardait, qui disait, oh, c'est une connerie ça. C'était juste la réaction. Et je pense que c'est la réaction négative que j'ai eue. Et tous les autres personnes étaient très. Mais ça. Je me rappelle juste que ça a montré à quel point les gens, leur réaction, c'est vraiment leur vécu et c'est vraiment coloré par ce que eux ils ressentent du mariage, de ce qu'ils ont vu chez leurs parents, de ce que eux ils sentent du mariage et que c'est vraiment pas un jugement sur toi ou ce que toi t'as vécu ou ce que toi tu peux vivre dans ta vie, mais c'est vraiment ça révèle quelque chose en eux, je pense, plus qu'autre chose. C'est une question qui, pour moi, le mariage. Qu'est-ce que tu penses du mariage? C'est peut-être la question qui révèle le plus sur une personne dans ce qu'ils ont vécu de leur vie, de leurs parents, de leur famille. Du coup, j'ai pas pris ça mal en fait. Moi, c'était fascinant de voir. Je savais que pour moi, c'était une bonne chose et pour moi, c'était la bonne chose à faire. Et c'était juste fascinant de voir toutes les réactions, les différentes réactions entre ah bah c'est bien pour toi, ou oh c'est une connerie, ou ah j'aimerais trop, ou ah je pourrais pas. C'est tellement fascinant de voir toutes ces réactions, quoi.
Je pense que, alors, au niveau des gens que je côtoyais au quotidien, il n'y avait pas vraiment de surprise, parce que j'étais en fac de théologie. Et juste un truc à préciser, c'est que je pense, donc, Niki et moi, étant tous les deux chrétiens engagés, on est dans un univers où pour nous le mariage est quelque chose de normal, d'attendu, c'est quelque chose auquel aspirent les gens dans les églises, d'autant plus si c'est pas forcément quelque chose de très sain, mais comme on a cette vision théologique de la sexualité qui est réservée dans le cadre du mariage, on se dit pas d'intimité sans engagement. C'est une façon à la fois d'honorer Dieu, mais c'est aussi une façon de protéger. Moi, je pense que c'est surtout une façon pour moi de dire j'honore la femme avec qui je suis en relation, à qui je suis amoureux. Je ne vais pas demander qu'elle soit intime avec moi sans moi m'engager profondément envers elle. Et lui dire, voilà, cette intimité, je veux que tu saches que tu es pleinement sécure en la vivant, en l'exprimant envers moi. Parce que moi je suis engagé envers toi à la vie, à la mort. Donc c'est pour ça qu'on a cette vision-là. Donc à la fac, pas vraiment, mais avec tous nos amis, il y avait une sorte quand même de grande surprise. Mes amis proches qui n'étaient pas à la fac savaient un petit peu que c'était la vision que j'avais du monde, de la vie, du mariage, de la sexualité. Mais les amis un petit peu moins proches, surtout les amis de Rebecca en fait, hein, parce qu'elle les connaissait depuis moins longtemps. Ses amis, il y avait une sorte de surprise générale de mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi? Enfin, on ne comprend pas. Une des réactions les plus fréquentes, c'était mais comment tu peux savoir à cet âge-là
Que c'est la bonne.
que c'est la bonne personne, que tu veux pas garder tes options ouvertes, avoir plus de pouvoir vivre des aventures avec des gens, etc. Presque les gens qui étaient les moins surpris étaient des gens qui se disaient, mais même une fois marié, c'est pas grave, tu peux avoir des aventures avec d'autres personnes, quoi. Il y avait même une personne qui était un petit peu intéressée par Rebecca, et au moment où elle a annoncé ses fiançailles, le gars a dit, de toute façon, ça change rien par rapport au fait qu'un jour il pourrait se passer quelque chose entre nous. Et là, Rebecca a mis beaucoup plus de distance avec le gars à ce moment-là, parce qu'elle était très claire qu'elle n'était pas intéressée par lui, et qu'ils pouvaient juste être amis. Mais quand elle voyait qu'il avait cette mentalité-là, elle s'est dit, non, écoute, là, ce gars-là, on va le rayer de notre liste de contacts. Mais ouais, juste une surprise générale des gens. Et dans tout ça, pour moi, ça, c'était très, très révélateur de finalement la vision que les gens ont du mariage dans notre culture,
Et des relations
et des
amoureuses.
relations, ouais.
Et je pense que c'est ça a révélé pour moi une vraie vision consumériste des relations, où la question, mais comment est-ce que tu peux savoir que c'est la bonne personne, que je sais pas, genre choisir une épouse, c'est pas choisir un téléphone, quoi, c'est pas la même chose du tout, c'est pas que je vais choisir un iPhone, mais est-ce que c'est vraiment la bonne décision, parce que bah, je sais qu'Apple, tu vois, tout ça, c'est pas tu peux pas faire une liste de pros et de contre, tu vois, c'est pas la même chose. C'est un choix de commitment, c'est quoi le mot?
D'engagement.
D'engagement, de rester engagé à quelqu'un malgré tout, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment. C'est pas quelque chose qui est mis en valeur dans notre société du tout, en fait.
Ouais.
C'est de côté de. Mais je sais pas, peut-être c'est la mauvaise personne, mais je vais quand même m'engager vers elle, et je vais quand
Ouais.
même la choisir, et je vais quand même rester avec elle jusqu'à la fin de mes jours, même si c'est peut-être pas la personne qui va me rendre le plus heureux, c'est peut-être pas la personne avec qui ça va être le plus facile, c'est pas être la personne qui je sais pas, qui va
S'épanouir.
m'épanouir ou me remonter socialement le plus, qui va m'épanouir sexuellement le plus. C'est pas la personne qui. Ben, je m'en fiche, en fait, je vais quand même m'engager vers eux, même si toutes ces choses, même si toutes ces cases ne sont pas cochées, c'est pas grave, parce que je vais jamais trouver quelqu'un avec qui toutes ces cases vont être cochées, de toute façon. Je peux attendre 40 ans pour trouver la bonne personne, je ne la trouverai jamais, et j'aime cette personne tout de suite aujourd'hui, donc je vais m'engager à l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Et ça,
Et que c'est
c'est.
pas pour toi que tu le fais, surtout, tu
Ouais.
vois, moi, je me suis pas engagé en épousant Rebecca à être moi le plus épanoui sexuellement que possible. Je me suis marié avec elle, avec comme volonté que elle soit la plus épanouie sexuellement que possible. Et que elle se sente la plus aimée, la plus valorisée, etc. et tout ça que possible. Donc, cette vision consumériste du mariage, conduit à ce que le mariage soit mal vécu.
Ouais.
Parce que tout le monde l'aborde pour soi, et qu'est-ce que moi je peux en retirer ? Et à partir du moment où tu te rends compte que tu n'en retires pas tout ce que tu penses que tu devrais pouvoir en retirer, bah à ce moment-là, la personne avec qui tu es marié devient disposable, dispensable. Tu peux la jeter, la mettre à la poubelle et essayer de trouver une autre parce que bah, finalement, le téléphone que tu t'avais acheté, finalement, la batterie, elle marche moins bien qu'au moment où tu l'avais acheté. Et voilà, parce que tu l'abordes pour toi. Mais c'est une personne que tu épouses, c'est pas un téléphone, et tu t'engages à l'aimer. Même si la personne ne t'aime pas ou ne t'exprime pas l'amour tel que toi tu penses devoir le ressentir ou mériter le ressentir. Ce truc-là, je vois ça partout, tu vois, sur Facebook, tu mérites aussi. Même nous, on vient de passer une semaine super chargé, et puis on se dit, ah, tu mérites bien du repos. Non, je ne mérite pas du repos. Dieu mérite la gloire.
Ouais.
Et je ne vis pas avec un sentiment quotidien de quelles sont les choses que je mérite, et je vais m'octroyer ces choses que je mérite. Le mariage, c'est une vie de sacrifice. Mais comme la personne avec qui tu es marié, elle aussi vit une vie de sacrifice, ça conduit à un épanouissement pour tous. Mmh. Mais tu peux très bien te marier et ne pas être épanoui dedans.
Ouais.
Mais c'est pas ça le but.
Ouais.
Même si le mariage devient un contexte d'épanouissement très très fort quand les uns et les autres décident de se donner à l'autre, quoi.
C'est ce contexte de sacrifice, en fait, ça fait partie de individualisation de la société où je m'amasse des choses pour moi, et c'est vraiment fou parce que dans la société, on a eu une époque où on a eu une individualisation de la famille, où d'abord c'était je suis là pour ma communauté, pour servir ma communauté, je sacrifice pour ma communauté. Donc ça, c'est une chose. Et d'autres communautés, je vais leur faire la guerre. Et puis après, on était arrivé au moment où je vais vivre pour ma famille, je vais sacrifier pour ma famille, et puis les autres familles, je vais faire la guerre. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où c'est genre, c'est même pas ta famille, quoi, c'est toi, il n'y a que toi. Et tu te fais à la guerre à tout le monde, et je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur internet, et avec genre une débat et tout ce qui se passe sur internet, où je vis carrément que pour moi, pour ma vision, pour ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de construire pour mon compte Instagram, pour mon compte Twitter, tu vois, sur mon nom, mon pseudonyme, c'est ça ce qui compte, c'est moi qui compte, et je vais faire la guerre à tout le monde, même à mon épouse, même à mes enfants, même à mes parents, même à tout ça.
Une sorte de rapport de force permanent qui est là. Et on voit ça aussi dans le monde du travail. Hein. Je pense moi, je suis content qu'il y ait une sorte de délitement du fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui montent leurs petites entreprises, qui tout ça. Mais il y a un côté aussi où on n'arrive pas à vivre pour, ou à se donner, à se sacrifier pour la boîte qui nous embauche. La vision d'un autre. Et tu vois, il y a un côté où je me dis, bon, on a bâti des sortes de méga structures de fou à travers ça qui ne sont pas forcément saines pour le monde dans lequel on vit, mais je trouve ça quand même vachement noble. Enfin, je ne sais pas si tu as vu le film, c'est avec Anne Hathaway et Danny DeVito, où elle, c'est une entrepreneur, elle est boss dans sa boîte, et il y a un gars qui est là, qui vient de prendre sa retraite, qui s'ennuie à mourir, et puis qui va revenir bosser pour une boîte tout en bas de l'échelle.
Ouais.
Mais il est là avec plein d'autres jeunes, et puis lui, le gars qui a 65 ans, je sais plus comment il s'appelle le film, mais il est vraiment bien, c'est un super bon film. Et le mec, en fait, il donne une leçon de vie à tous les jeunes, parce que lui, il se donne, en fait, à cette boîte, et il se présente, il dit... en anglais, il dit « I'm a company guy ». Je suis un mec qui aime faire partie d'un groupe plus grand, faire partie d'une vision plus grande, et me donner pour le bien de la collectivité. Ouais. Mais c'est pareil au niveau de la famille, tu vois. On n'a plus beaucoup de gens qui disent « I'm a family guy ». Moi, je suis quelqu'un qui suis là pour, même si je ne vais pas avoir tout comme je le voudrais, même si je me sacrifie pour d'autres personnes, même si je ne suis pas là à avoir exactement ma vision de comment ma famille parfaite devrait être, parce que je prends aussi en considération la vision que mon épouse veut avoir de la famille et de tout ça, et je prends en considération le bien-être de mes enfants et comment est-ce qu'on oriente notre vie de famille aussi autour de l'épanouissement et du fleurissement de nos enfants, même si c'est pas eux autour de qui tourne la famille. Et ça, c'est un enjeu qui est un autre. On pourrait faire un podcast là-dessus une autre fois. Mais de pouvoir se dire, non, je vais servir la vision d'une autre personne et ma vision à moi aussi en tant que leader au sein de ma famille va être pour le bien-être de l'autre et va servir les autres personnes. Et donc c'est pareil, tu vois, pour un chef d'entreprise, ça peut être une énorme différence quand tu as un chef d'entreprise qui cherche son avancée perso, l'avancée perso de sa boîte, ou qui cherche à ce que tout le monde dans la boîte grandisse, aille mieux, fleurisse, etc., etc. Et donc notre rapport à nos enfants peut être révolutionné à travers ça, de dire ouais, c'est bien les parents qui sont responsables au sein de la famille, mais par contre on prend nos décisions non pas individualistement, mais pour le fleurissement de tous. Et ouais.
Ouais, c'est fascinant. Je pense que c'est vraiment une nouvelle approche, quelque chose qui a vraiment changé dans notre société. Toi, moi, ça fait presque 3 ans que je suis mariée. Toi, ça fait
10
10
ans.
ans que tu es mariée. Quelle est la grande leçon que tu as retirée de ces 10 dernières années?
J'ai l'impression que c'est une sorte de succession de petites leçons glanées au
Au fil
fur et
du
à
temps, ouais.
mesure, une amélioration constante. Je pense qu'on avait quand même des bonnes bases au début, hein, un truc qu'on s'est dit avec Rebecca dès le début. Quand on s'est marié aussi jeune, les gens nous disent, mais comment? Enfin, t'es trop jeune, comment est-ce que tu sais que t'es prêt? Avec Rebecca, on s'est dit, bah, il faut qu'on sache qu'on est assez mature pour décider de s'aimer, même quand on n'en a pas envie. Et à partir de là, on sait qu'on est prêt à se marier. Et depuis ce moment-là, ça a été un apprentissage de ça en permanence et en permanence. La communication, dès le début, on savait que c'était important, mais on apprend à communiquer de mieux en mieux. Le fait de chercher le bien-être de l'autre, on savait que c'était important, mais on apprend à le faire de mieux en mieux. Et tous les enjeux deviennent bien plus importants quand on a des enfants, parce que toutes les choses que tu faisais avant, il faut savoir les faire encore plus et encore mieux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une sorte de un
Non.
grand truc. J'ai du mal à répondre à cette question.
Le mariage, c'est un truc tellement compliqué que c'est pas. Ça, à chaque fois qu'il y a des gens qui disent c'est quoi le truc du mariage ou quel est le secret du mariage, tu vois, tu te montres toujours la question quel est le secret du mariage et en fait il n'y en a pas parce que c'est du travail. Et c'est du travail qui prend du temps et qui s'apprend et qui a besoin de patience et etc. etc. Et du coup, c'est pas. Jamais, il n'y a pas de clé magique en fait, tu vois.
En fait, c'est une sorte d'ensemble de choses. Donc, on est en train de préparer un parcours mariage qu'on va utiliser non seulement au sein de l'église, mais qu'on va aussi chercher à utiliser en dehors de l'église, avec deux autres couples actuellement à Fireplace. Et on a fait une sorte de brainstorming sur qu'est-ce qu'on veut enseigner. Et on s'est dit, on a un terreau, un fondement qui est là. C'est cette vision du mariage comme une alliance. Et on est engagés les uns vers l'autre. Et après, sur cette fondation, on a défini genre quatre ou cinq piliers. Le pilier central, c'est la communication. C'est le plus important de tous les trucs pratiques qu'on fait. Un truc qu'on a défini, c'était la volonté de sacrifier pour l'autre. Une troisième chose, c'était le fait d'avoir une vision commune de là où on veut aller. En fait, avoir un mariage qui existe pour quelque chose de plus grand que le mariage lui-même. Et on avait deux autres aussi qui étaient là, et je ne les ai pas en tête, mais on va revenir dessus juste ce soir, justement, quand on se retrouve avec notre groupe de maison couple, et on va reprendre les différents trucs qu'on avait définis, et en affiner certains. Mais ouais, je n'ai pas l'impression que. Si on comprend les 3, 4, 5 choses essentielles dans le contexte d'une alliance où c'est indéboulonnable, tu vois, c'est genre le. Le divorce n'est pas une option. Bien sûr, dire ça veut aussi dire qu'il faut protéger les personnes, hein. Quand on faisait cette session sur qu'est-ce qu'on va enseigner, j'avais constamment en tête ce chiffre que une femme sur quatre ou une femme sur cinq aura été abusée émotionnellement, physiquement ou sexuellement au cours de sa vie. Et donc, en enseignant tout ça, il faut aussi prendre en considération la réalité de la chute de notre monde, hein, que Dieu a admis le divorce à cause de la dureté du cœur humain, c'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 19. Mais il l'a admis, c'est pas du tout ce qu'on doit chercher à viser, mais toujours garder en tête ce truc de, on vit dans un monde qui est déchu et on ne peut pas forcer les gens à rentrer dans notre cases parce que ça peut conduire à de l'abus. Et donc, dans les cas d'abus, bien sûr, tout ce qu'on enseigne, c'est mis de côté pour dire, OK, on va protéger les personnes
Oui,
d'abord.
absolument.
Mais grosso modo, on veut dire, c'est l'alliance d'abord, engager les uns les autres, chercher à vivre pour le bien de l'autre personne avant tout, quoi, pour soi. Et pareil, dans une situation d'abus, qu'est-ce qu'on doit faire attention avec cet enseignement-là, quoi, et de dire, hey, si le mec abuse de toi physiquement, sexuellement, émotionnellement, ou la femme aussi, ça peut se passer, mais 95% des cas d'abus, c'est l'homme sur la femme, donc c'est suffisamment contrebalancé, enfin, c'est suffisamment balancé comme poids pour pouvoir uniquement parler en termes de l'homme envers la femme. Quand une femme est abusée, ce contexte-là, cet enseignement-là, il faut dire, OK, on met en pause cet enseignement-là. Il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut qu'il y ait un respect dans ce contexte-là. Si ça s'est mis en place, oui, on vit pour servir le bonheur de l'autre personne et l'épanouissement de l'autre personne avant le mien. Mais ouais, moi, un truc qui m'avait aussi frappé en quelque sorte dans le fait de se marier aussi jeune, c'était presque fun en fait, l'étonnement des gens, des
Moi,
étrangers.
c'est quelque chose qui me manque en fait. Hein.
Ouais,
Maintenant
c'était
que je suis un peu
fun.
plus vieux
La barbe, hein.
et que j'ai la barbe, et que maintenant être marié à presque 24 ans, c'est pas aussi surprenant qu'être marié à 21 ans. J'ai moins de gens qui sont genre, quoi, t'es marié? Ça me manque.
Ouais, moi aussi.
J'ai presque envie d'avoir des enfants maintenant, parce qu'avoir des enfants à 24 ans, c'est encore surprenant
C'est
et
clair.
voilà.
Ouais, on a eu ça aussi quand on a eu des enfants. Vous êtes jeune. Mais là, les gens étaient plus positifs qu'autre chose. En tout cas, à l'hôpital, les gens étaient là, mais c'est tellement bien de voir des couples qui ont des enfants aussi jeunes, etc., etc.
Moi, c'était l'adjoint maire au maire de mairie de Versailles qui nous a mariés. Il était là, il était genre, oh, c'est tellement bien de voir des jeunes qui se marient maintenant aussi jeunes parce que ça se voit plus. En plus, tu vois, c'est quelqu'un de droite, Versailles, tu vois.
On a eu pareil à Maison Lafitte,
Ouais,
ouais.
c'est déjà. C'est tellement bien de voir des jeunes qui se marient, ça se voit plus du tout, là.
Il y a eu une fois au restaurant, on était mariés depuis je sais pas, 3-4 semaines, on était au resto. Et moi, j'avais une tête mais de gamin en plus, vraiment à l'âge de 20 ans. Le serveur vient et dit, Mademoiselle, qu'est-ce que vous prendrez? Et moi, je mets ma main sur la table avec mon alliance en mode, et je lui ai dit, Madame. Et j'ai trouvé ça, tu sais, pendant 3-4 mois, j'ai fait ça et je trouvais ça tellement fun à chaque fois. Et surtout, ce gars-là, on s'en souvient, juste la réaction du mec, quoi. Il était de teint italien, mais il a pâli. Tout son visage est devenu suédois, quoi, en l'espace, islandais presque. Hein. C'était trop drôle. Et on a eu quelques situations comme ça. Donc, ça, c'est vrai que ça me manque aussi. C'était fun. J'aime bien le côté presque contre-culturel de certains choix qu'on fait en tant que chrétien. Je prends du plaisir, en fait, parfois, à être contre-culturel.
Donc ça c'était un des avantages d'être marié jeune. Quels sont les autres avantages et quels sont les autres inconvénients que tu vois à être marié aussi jeune, surtout en France au XXIe siècle?
Ouais, bah tu vois, moi, comme mon univers, vraiment, c'est l'église et c'est tout ça, il y a des fois où je me dis, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup d'énergie, et il y a tellement, tellement de choses que je pourrais faire pour l'église et pour le royaume que je ne fais pas parce que je suis marié.
Avec des enfants aussi, ça
Et
c'est
surtout avec des enfants,
vrai.
encore plus, encore plus. Mais même avant qu'on ait des enfants, il y avait ce côté où il faut qu'on garde un samedi par mois, surtout quand tu es jeune marié, il faut vraiment investir beaucoup, beaucoup de temps. Aussi quand on est marié depuis 11 ans, et on peut parfois l'oublier, quoi. On se dit, ouais, on a une bonne base de relations, on est marié depuis un moment, non, il faut continuer à bâtir ça. Ouais, il y a ce côté où il y a des choses que je ne peux pas faire en tant que marié, en tant que père de famille, que je pouvais faire quand j'étais plus jeune. Il y a aussi des fois où je me dis, j'aurais bien aimé avoir appris certaines de leçons que j'ai apprises dans le mariage, les avoir apprises en dehors du mariage. Mais après, on ne peut pas se faire un sans encre là-dessus. La réalité, c'est qu'on s'est mariés en sachant qu'on allait devoir grandir ensemble. Mais les avantages, il y en a tellement. Il y en a énormément, en fait. On apprend ensemble. On fait nos erreurs ensemble. On s'est mariés avant d'être ancrés dans nos habitudes. Sortir de ces habitudes, j'ai entendu dire pour des gens qui se marient à l'âge de 35 ans, etc., c'est très difficile de changer de ses habitudes pour se caler sur les habitudes d'un autre ou d'une autre. Donc, nous, on y a vu plus ou moins que du bénéf. Et puis, on se dit qu'à l'âge de 45 ans, On sera encore jeunes comme tout si on réussit à garder nos corps en forme. Hein, et puis je vais me remettre.
Tu vas me rejoindre à la salle de sport.
Oui, exactement, à partir de la rentrée. À 45 ans, nos enfants seront adultes.
Ouais.
Et,
c'est cool ça.
Et ouais,
vous aurez genre 20-30 ans devant vous sans enfants encore.
Énorme. Alors, 45 ans, c'est encore tellement jeune quoi. Et ouais, donc voilà. Donc, ouais. Ouais, et toi?
Bah, moi, c'est. J'ai commencé à sortir avec Gemma quand on avait 16 ans. Et du coup, j'ai vraiment le côté où j'ai pas seulement appris avec Gemma, mais j'ai grandi avec elle pratiquement. Tu vois. Mmh. Je me suis formé en tant qu'homme à ses côtés. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, il y a vraiment le côté où elle me connaît plus que n'importe quelle autre personne, mais vraiment en fait. Mais aussi, elle m'a connu dans mes pires moments, elle m'a connu avant que j'étais la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, je l'ai connue aussi avant qu'elle était la personne qu'elle est la personne qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, il y a vraiment un côté où on connaît nos histoires. On connaît vraiment d'où on vient et où on va ensemble. Et ça, c'est super cool. Ça, c'est juste... c'est vraiment... c'est spécial d'avoir une personne comme ça qui peut aussi te challenger et peut te dire tu retombes dans les mêmes choses qu'il y a 5 ans où il faut faire attention où tu vas... C'est vraiment une vraie bénédiction d'avoir ça.
Mmh. Mmh. Ah, c'est vrai, ouais, je vois aussi ce que tu veux dire, quoi. Pour moi, tout le côté procrastination et d'autres écueils vraiment que j'avais plus fortement quand j'étais plus jeune, qui aujourd'hui vont mieux, mais il y a quand même ce côté où Rebecca les a tous connus et puis j'ai encore ces tendances, tu vois, à retomber dans des trucs ou des excès ou d'autres choses comme ça. Rebecca, elle les a connus, elle les a subis.
Ouais.
Elle a réussi à persévérer à travers ça. Et puis, non, on s'est aidé à grandir mutuellement aussi, quoi.
Ouais. Mm. Et puis aussi, le privilège de voir quelqu'un d'autre grandir comme ça.
Mm.
Genre, juste voir dans les 7 dernières années, voir Gemma grandir, devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, c'est juste ouf de voir son évolution et comment elle devient une femme incroyable, quoi.
Mm.
Elle a toujours été, mais ouais, juste
de plus en plus,
c'est juste c'est super beau. Bon, en parlant d'enfants, toi, il faut que tu ailles chercher des enfants à l'école.
Grave, c'est
donc on se dit ciao pour cette fois-ci. On retrouve Facebook sur Nathan sur Facebook, Nikki sur Twitter. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes et partager cet épisode
partagez
avec
à tout le monde,
vos amis pour qu'on puisse devenir un grand podcast qui fait de l'argent.
Ah, c'est de l'argent, c'est
très drôle.
Hein. J'ai même pas pensé à ça, mais oui, si on peut.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Yes.
Ciao.
À bientôt.